L'Iran condamne l'attentat meurtrier dans une mosquée en Afghanistan. En Syrie, la centrale électrique de Tal Tamer a été remise en service. Et la représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel se dit satisfaite des progrès réalisés dans les réformes politiques. C'était les principaux titres. En voici le journal. La marine iranienne a brièvement capturé jeudi 1er septembre deux navires de surveillance de la marine américaine en mer Rouge, a rapporté vendredi 2 septembre la chaîne de télévision iranienne. Alors qu'il menait une mission de lutte antiterroriste en mer Rouge jeudi, le destroyer de la marine iranienne Jamaran a croisé des navires de surveillance américains sans pilote sur la route de transport maritime international. Après avoir mis en garde la partie américaine par deux fois pour éviter de possibles accidents, le destroyer Jamaran a saisi les deux navires. Après avoir sécurisé la route de transport international, le 84e groupe naval de l'armée iranienne a libéré les deux navires dans une zone sécurisée et mis en garde la flotte américaine de ne pas réitérer de cas similaires. Le 84e groupe naval de l'armée iranienne a été déployé en mer Rouge et dans le golfe d'Aden depuis deux mois. Mardi dernier, la marine des gardiens de la révolution islamique d'Iran a capturé brièvement un navire sans pilote américain errant dans le golfe pour sécuriser la route de transport et éviter les accidents. L'Iran a condamné l'attentat à la bombe perpétré vendredi 2 septembre dans une mosquée de la ville d'Herat, dans l'ouest de l'Afghanistan, a déclaré Nasser Kanani, le porte-parole de la diplomatie iranienne. Il a exprimé son inquiétude face à la poursuite des attaques terroristes en Afghanistan, affirmant que l'Iran soutenait l'Afghanistan et sa lutte contre l'extrémisme, la violence et le terrorisme. Il a présenté ses condoléances aux familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Au moins 18 personnes ont été tuées et 23 autres blessées lorsqu'une explosion a frappé vendredi 2 septembre une mosquée de la ville d'Herat, a confirmé un responsable local afghan aux journalistes. En Syrie, la centrale électrique de Tal Tamer a été remise en service après la réparation de la ligne 66 kV qui l'alimente et qui a été endommagée dans des attaques menées par l'occupant turc. Le directeur général de l'établissement de l'électricité de Rasaké, Anwar Akla, a affirmé que la centrale avait été remise en service après la réparation de la ligne de tension 66 kV, qui était tombée en panne à cause d'une attaque turque dans le village d'Omkaif, dans le nord de Tal Tamer, dans la banlieue ouest de Rasaké. La centrale électrique de Tal Tamer avait été mise hors service en raison des dégâts causés à la ligne de tension 66 kV qui l'alimente, et ce à cause d'attaques turques aux roquettes contre la zone. Dans une déclaration qu'il a donnée au correspondant de Sana, l'agence de presse officielle syrienne, le directeur général de l'établissement de l'électricité de Rasaké, Anwar Akla, avait précisé la zone située dans la banlieue nord et nord-est de la localité de Tal Tamer à l'ouest de Rasaké a été attaquée par l'occupation turque, ce qui a fait des dégâts à la ligne de tension qui alimente la centrale. Et nous tentons actuellement de réparer et de remettre la centrale en service. Dans le contexte, des sources civiles ont indiqué aux correspondants de Sana que l'occupation turque a renouvelé son agression contre les environs de Tal Tamer et bombardé les villages de Tawila, Tal Tawil et Dal Abouch, y faisant des dégâts matériels. Toujours en Syrie, des groupes terroristes soutenus par les forces d'occupation turque ont attaqué par l'artillerie lourde des zones résidentielles dans la banlieue nord de Raqqa. Des sources locales ont fait savoir aux correspondants de Sana que les groupes terroristes affiliés à l'occupation turque avaient visé aux obus de l'artillerie lourde les alentours de la localité d'Ayn Issa et l'autoroute internationale M4 dans la banlieue du Nord. Les sources ont indiqué que les attaques avaient causé des dégâts dans un certain nombre de maisons et de propriétés et provoqué un état de panique parmi les citoyens. Le gouvernement français a appelé à une mobilisation générale face à la menace de pénurie de gaz et d'électricité au sortir d'un conseil de défense sur l'énergie qui s'est tenu vendredi 2 septembre, soit deux jours après l'annonce de la suspension des livraisons de gaz russe à la France. La sobriété énergétique et la solidarité entre les pays européens en matière de gaz et d'électricité sont au cœur des mesures envisagées par les autorités pour assurer la sécurité de l'approvisionnement en France en cas de pénurie. La clé, c'est la mobilisation générale et la réussite du plan de sobriété actuellement en travaux nécessitera la mobilisation de tous, a déclaré la ministre française de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Ce plan de sobriété énergétique, lancé en juin dernier par la première ministre française Elisabeth Borne, a pour objectif de réduire de 10% la consommation d'énergie en France afin d'éviter les coupures. Il concerne principalement les entreprises, l'État et les collectivités locales. Bâtiments publics. Il s'agit d'efforts collectifs, proportionnés et raisonnables, a dit Mme Pannier-Runacher, tout en rappelant que la sobriété, c'est la chasse au gaspillage, à l'attention au chauffage et à l'éclairage. Ce n'est pas demander aux entreprises de baisser leur production ou leurs activités, a-t-elle expliqué. L'autre solution envisagée face à une éventuelle pénurie, c'est le renforcement de la solidarité énergétique entre États européens afin d'assurer la sécurité d'approvisionnement de la France. C'est grâce à cette solidarité que nos voisins européens ont également pu remplir en ce moment leur stock de gaz, a indiqué Mme Pannier-Runacher. Le Conseil de défense rassure sur l'état actuel de la situation en France. Nous avons sécurisé nos stocks de gaz. Ils sont aujourd'hui remplis à 92% en raison de la diversification des approvisionnements, a indiqué la ministre française. Sur l'électricité, 32 réacteurs sont à l'arrêt pour corrosion sous contrainte ou pour maintenance. Mais EDF, société en charge de l'électricité en France, s'est engagée à redémarrer tous les réacteurs pour cet hiver, a-t-elle rassuré. La représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel, Emmanuela Del Rey, a salué vendredi 2 septembre les progrès réalisés par le gouvernement malien dans les réformes politiques et institutionnelles, notamment la promulgation de la loi électorale et l'adoption d'un calendrier électoral. Del Rey s'exprimait à l'issue de son audience accordée par le premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga. Elle a déclaré que le Mali est un pays central dans toutes les dynamiques du Sahel, tout en assurant que l'Union européenne sera à ses côtés. De son côté, Abdoulaye Maïga a exprimé la volonté du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, d'organiser des élections crédibles et transparentes, soulignant que nous n'avons pas vocation à nous éterniser et à faire perdurer la transition. En outre, le chef du gouvernement a aussi rappelé à la diplomate européenne les hautes orientations du président de la transition, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques du Mali et la prise en compte des intérêts du peuple malien. Del Rey a également été reçu ce vendredi 2 septembre par Assimi Goïta. Les échanges avec le chef de l'État ont porté sur la coopération entre le Mali et l'Union européenne. Emmanuela Del Rey est en visite de travail au Mali pour participer à la 6e session de haut niveau du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali qui s'est tenue ce vendredi 2 septembre à Bamako. Voilà, si s'achève le journal, restez à l'écoute du commentaire politique. Cisjordanie, une armée secrète anti-Israël. Depuis de nombreux mois, la Cisjordanie est de manière inhabituelle et presque quotidienne le théâtre du déclenchement d'affrontements armés entre les combattants de la résistance palestinienne dans les villes et villages de Cisjordanie d'une part et l'armée d'occupation israélienne de l'autre. Affrontements qui font saigner l'armée d'occupation. Ce n'était pas ainsi dans le passé, car n'importe quelle patrouille israélienne de 10 soldats au maximum pouvait prendre d'assaut n'importe quelle ville ou camp palestinien, agresser, battre et même assassiner de sang-froid n'importe quel Palestinien, puis se retirer des heures plus tard comme si de rien n'était. Et la scène était récurrente. Cependant, ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain est complètement différent, au point que l'armée d'occupation israélienne parle d'un désastre qui lui est tombé sur la tête, et ce, en raison de la force et de la solidarité croissante de la résistance en Cisjordanie, qui ne cesse de croître ces derniers mois. C'est un phénomène qui brouille toutes les cartes israéliennes et le fait réfléchir mille fois avant de prendre d'assaut n'importe quelle ville ou camp de la Cisjordanie. C'est face à cette nouvelle réalité fort complexe et parfaitement incontrôlable qu'Israël a admis devant tout le monde l'échec de son opération Brise-Vague, qu'il avait lancée il y a plusieurs mois, juste au lendemain du sommet Israël-normalisateur au Negev, et ce, dans le but d'éliminer la résistance armée dans les villes et les camps de Cisjordanie. Les milieux militaires sionistes soulignent que le rythme des opérations armées palestiniennes s'est accéléré, malgré les arrestations massives et l'intensification de la coordination sécuritaire avec l'autorité palestinienne. Ce phénomène parfaitement incontrôlable s'est produit malgré les menaces proférées par le chef d'état-major de l'armée israélienne, Aviv Kohavi, au début de l'année. Et ces avertissements, comme quoi, si le calme sur le terrain ne revient pas et que les attaques ne s'arrêtent pas, ces forces seront obligées de lancer une opération à grande échelle en Cisjordanie, en particulier dans le nord. Mais ces menaces ont attisé le feu. Selon Walla News, les données négatives, la réalité sécuritaire et l'incitation sur les réseaux sociaux, en particulier de la part du mouvement Hamas, ont conduit au déclenchement d'une vague d'opérations à l'intérieur des villes israéliennes, à laquelle l'armée israélienne a dû faire face à deux options. Soit mener une opération de grande envergure, notamment dans le nord de la Cisjordanie, soit mettre en œuvre des opérations nocturnes basées sur le renseignement contre des cibles précises. La deuxième option a été choisie pour empêcher l'effondrement de la coordination sécuritaire et du tissu vital des Palestiniens et pour permettre l'entrée de 130 000 travailleurs sur la ligne verte. Mais les choses s'empirent. L'armée israélienne a lancé une opération appelée l'opération Brise-Vague et après une semaine d'une série d'opérations, elle a déployé d'importantes forces le long de la ligne de contact et a intensifié ses activités pour procéder à des arrestations. Mais les activités armées ont augmenté, notamment lors de la riposte à ces opérations, indique le site web en hébreu Walla News. Les officiers des services de sécurité de l'occupation admettent que, malgré les arrestations massives qui ont pu contribuer à briser les plans de la résistance palestinienne, il y a eu une augmentation notable des frictions et des affrontements, ce qui indique que les tentatives israéliennes n'ont pas abouti à éliminer ces cellules qui se multiplient. Selon Dana Ben Shimon, responsable des affaires palestiniennes à Israël Hayom, il se passe rarement une nuit sans arrestation et donc sans affrontement, car chaque processus d'arrestation est complexe en soi et implique la possibilité de complications lors de l'entrée dans les territoires palestiniens. Les arrestations ont lieu à la lumière d'affrontements sanglants avec les forces armées qui peuvent durer des heures. Les cibles de l'arrestation se battant maintenant jusqu'à la dernière goutte de leur sang, elles ne préfèrent pas se rendre, comme cela s'est produit avec Ibrahim al-Naploussi. Les personnes recherchées sont devenues plus dangereuses parce qu'ils sont armés et difficiles à briser, d'autant plus qu'ils n'appartiennent clairement à aucune faction palestinienne.